C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, depuis mercredi et jusqu'au 19 décembre, les représentants de 196 pays sont réunis à Montréal pour la 15e conférence des Nations Unies sur la diversité biologique. L'objectif de cette réunion est de mettre en place un nouveau cadre de protection de la biodiversité mondiale jusqu'en 2030. Et c'est vrai qu'il faut agir. 1 million d'espèces sur les 8 millions recensées sont menacées d'extinction. Par exemple, en 30 ans, 80% des gorilles des plaines du bassin du Congo et 86% des éléphants africains ont disparu. Les causes de ces disparitions sont multiples. L'expansion de l'agriculture industrielle pour produire du soja, de l'huile de palme, du maïs ou élever du bétail. L'étalement urbain, les méga-projets d'infrastructures, la surexploitation des espèces avec la surpêche et le braconnage, la pollution de l'eau et des sols, le plastique. Bon, je m'arrête là parce que François Porcheron, le réalisateur de C'est pas du vent, va encore me dire « Arrête de briser le moral des auditeurs en début d'émission ». Ok, mais on fait quoi ? À Montréal, il est question de protéger 30% des écosystèmes terrestres et marins dans le monde d'ici à 2030, soit près du double par rapport à aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que cela veut dire que nous pourrions continuer à détruire le vivant dans les 70% restants ? C'est ironique, mais c'est un peu notre histoire, surtout dans les anciennes colonies européennes, en Afrique et en Asie du Sud. Protéger des espaces en créant des réserves ou des parcs, souvent au détriment des populations locales, pour mieux exploiter ailleurs. C'est cette histoire que nous allons vous raconter avec nos invités pour éviter de répéter les erreurs du passé. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Comment s'est construit au fil du XXe siècle et jusqu'à nos jours le gouvernement de la nature en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ? C'est cette histoire que racontent nos invités dans le livre qu'ils ont co-dirigé « Protéger et détruire, gouverner la nature sous les tropiques » publié aux éditions du CNRS. Bonjour Guillaume Blanc.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. À vos côtés, Grégory Kennett. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en histoire de l'environnement à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et en ligne avec nous pour cause de Covid, donc merci d'être avec nous. Mathieu Guérin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire de l'Asie du Sud-Est à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Alors avant de remonter le temps, j'aimerais vous demander comment vous réagissez à cette proposition dont les négociateurs discutent actuellement à Montréal, qui consiste à protéger 30% des écosystèmes terrestres et marins dans le monde d'ici à 2030. Qu'est-ce que ça vous inspire, Guillaume Blanc, cette réflexion ?
Finalement, c'est toujours la même solution face au même problème, c'est-à-dire qu'aucun des deux n'est bien défini, puisque 30, c'est un chiffre, c'est rassurant, en plus ça a l'air d'être concret, 30% de zones protégées en 2030, mais vous l'avez annoncé dès le début, si c'est pour continuer de mettre en parc 30% pour s'exonérer de tous les dégâts qu'on commet ailleurs, donc 70%, bon, ça ne sera pas la solution. Et puis, c'est surtout que derrière ce chiffre, ce qui n'est pas dit, ça va être quelles sont les réalités des zones protégées, puisque la France en est à déjà 27% de zones protégées. C'est-à-dire que les parcs naturels régionaux, il n'y a pas de contraintes. En revanche, les zones protégées, par exemple en ce moment, les Maasai en Tanzanie, sont des expulsions forcées de populations qui se font même tirer dessus. Donc 30-30, oui, mais de quelle manière ?
Voilà, c'est tout l'enjeu. Grégory Kennett, vous qui travaillez sur l'histoire de l'environnement depuis longtemps, ce genre de réflexion, de disposition, vous en pensez quoi ?
D'abord, ça paraît peu applicable, effectivement, selon un schéma rigide. De toute façon, ça sortira des difficultés sur place. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faudrait interroger de manière plus globale, la façon dont aujourd'hui les questions écologiques sont réglées par une sorte de politique du futur. C'est-à-dire qu'on prend un engagement à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, qui permet de faire passer des solutions qui ne seraient pas acceptées aujourd'hui. Et on signe. Et après, on se retrouve à devoir appliquer des choses qui n'ont pas été anticipées. Alors que le propre de la politique, c'est de discuter précisément tout de suite de quelle société on veut faire, avec qui. Mais remarquez que cette position, elle est tout à fait assumée par une partie des négociateurs, des institutions européennes. Regardez ce qui s'est passé sur les voitures, par exemple, ou sur d'autres sujets. On obtient un arrache un accord qui n'engage pas le gouvernement en place, de toute façon, on n'aura pas à l'appliquer, et qui après se traduira par des controverses ingérables.
Oui, sachant que les engagements précédents pour lutter contre la perte de la biodiversité n'ont pas été tenus. Mathieu Guérin, comment est-ce que vous réagissez à cette mobilisation pour protéger 30% de l'espace terrestre et marin ?
Je crois que vous l'avez bien dit dans votre introduction. La question, c'est effectivement de savoir ce qui va être fait dans les 70% qui restent. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on entend par zone protégée et surtout comment on envisage la mise en place de ces aires protégées, avec quelles négociations avec les populations qui habitent à proximité ou dans ces zones protégées qui vont être en construction. Et nous, notre travail d'historien, notamment, c'est de voir sur la distance dans le temps comment le fait d'impliquer ou non les communautés locales lors de la constitution de parcs ou de réserves a une influence d'une part sur leur vie, sur leurs accès aux ressources, mais aussi sur l'efficacité de ces zones protégées.
Alors votre livre est passionnant, hein, notamment parce qu'il retrace justement l'histoire de la conservation de la nature. Il y a une chronologie très claire, révélatrice de notre rapport au vivant. Guillaume Blanc, ça commence par les réserves de chasse 1900-1930.
Oui, voilà, ça a été en fait le point vraiment bénéfique parmi beaucoup d'autres de se réunir à une quinzaine historiennes, historiens, anthropologues, politistes. C'est qu'en fait, puisque notre objet commun, c'est les zones protégées, on a pu sortir d'une chronologie très européocentrée, colonisation, décolonisation. Ça, en fait, c'est une rupture qui n'a de sens que pour les métropoles qui quittent l'Afrique et l'Asie. Mais quand on se concentre sur la chronologie vue des pays du Sud, avec des zones protégées, là, on voit un autre mécanisme apparaître. Donc d'abord, des réserves de chasse, fin 19e siècle, qui apparaissent. Et il faut bien voir pourquoi ces réserves de chasse apparaissent. En fait, leur nom dit ce qu'elles sont. Ce sont des réserves ou chassées, non créées par des chasseurs européens.
Pour protéger, là déjà, il y a quelque chose qui ne va
voilà.
pas.
Eh bien, c'est pour ça, d'où le titre de notre ouvrage, Protéger et détruire. C'est pourquoi ces chasseurs créent ces réserves. Parce que la colonisation représente un choc écologique sans précédent. La faune commence véritablement à disparaître avec l'accélération du trafic et du commerce d'ivoire, avec la pose du rail, avec la colonisation. Faut aussi nourrir les ouvriers en chassant. Et puis avec la déforestation. Et en fait, ce sont des Européens qui vont s'approprier le droit de chasse en blâmant les coloniser pour les dégâts qu'ils sont eux-mêmes en train de causer, mais pas dans une version complotiste de l'histoire. Les colons ne sont pas capables de voir que les destructions écologiques auxquelles ils assistent sont de leur fait et ils mettent en place des réserves. Et dans les années 30, quand ils verront que même dans ces réserves, la grande faune s'effondre, puisqu'ils ne cessent de la chasser, eh bien là, on va avoir un début de basculement vers des parcs nationaux, et ça arrivera vraiment après les années 40, enfin après la guerre, où là, sera des sanctuaires véritablement de nature, jusqu'aux années 80, où on rentre dans notre ère, comme l'a dit l'expression de Grégory, c'est politique du futur, à la conservation communautaire, avec beaucoup de principes, mais qui sont en fait apolitiques en apparence.
Et en parallèle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'évolution du statut des personnes en charge de gérer ces espaces, hein, que vous appelez les professionnels de la nature. On passe des scientifiques aux experts, puis aux consultants.
Voilà, et ça vraiment, on le doit aux travaux avec Mathieu Guérin et Grégory, en fait, à force de travailler ensemble au fil des années. En fait, on s'est aperçu que beaucoup d'administrateurs coloniaux se reconvertissaient en experts internationaux. Et là encore, ça a permis de revoir les chronologies. En disant, mais en fait, les années 60, si on le prend à l'échelle humaine, que ce soit pour les paysans, pour les dirigeants africains ou asiatiques, ou pour ces experts, en fait, la chronologie, c'est plus les années 30 aux années 80, il y a une véritable matrice. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis après à beaucoup de chercheurs pour essayer de revoir vraiment des trajectoires d'abord colonial, puis post-colonial.
Alors Grégory Kenneth, comment ça se décline, par exemple, aux Seychelles, cette histoire ?
D'abord, quand on passe par les archives, on se rend compte de la complexité des tensions qu'il y a à l'intérieur. Et c'était tout à fait surprenant parce que on voit que dans les processus d'accession à l'indépendance et après, eh bien, il n'y a pas forcément une unanimité, ni dans les milieux gouvernementaux seychellois, ni parmi les autorités anglaises, puisque les Seychelles sont dirigées par les Anglais depuis 1811. Et ça, c'était une première surprise parce qu'il n'y a pas une grille de lecture uniforme qui est appliquée. Dans le cas des Seychelles, par exemple, eh bien, les savants sont contre le Foreign Office, qui a une politique très pragmatique et assez cynique, c'est-à-dire que dans le processus d'accession à l'indépendance, ils veulent mettre sous cloche des parties du territoire pour continuer à en profiter, que les futurs Seychellois indépendants ne les abîment pas. Et puis ils négocient militairement, ils négocient la géopolitique finalement à travers la nature. C'est-à-dire qu'une des clés de lecture de ce qui se passe aux Seychelles, c'est la fameuse base de Diego Garcia qui sera concédée aux Américains. Et donc il s'agit que ces tractations secrètes ne soient pas gênées par des associations de protection de la nature, par des controverses. Et du côté seychellois, eh bien, les élites se divisent entre des élites plutôt anglophones et modernes qui veulent saisir les opportunités du développement du tourisme. Et de l'autre côté, des élites indépendantistes qui veulent créer une sorte d'environnementalisme créole, d'environnementalisme seychellois, et qui réactivent et inventent en partie une tradition française, c'est-à-dire les formes d'occupation qui étaient celles de la première période des Seychelles entre 1770 et 1811.
Et alors Mathieu Guérin, comment cette évolution se décline au Kenya, puis en Malaisie, à travers notamment un personnage que vous avez suivi ?
Alors le capitaine Ritchie que j'ai suivi, effectivement, c'est un ancien militaire qui a été en charge des réserves au Kenya et qui a été envoyé par le Colonial Office en 1937 en Malaisie pour mettre en place un département de la faune sauvage qu'on appelait à l'époque département des gibiers en Malaisie, avec l'idée de faire bénéficier la Malaya britannique de l'expertise africaine que les Britanniques aient pu construire en matière de conservation de la faune. Alors, nous étions partis avec Guillaume et Grégory sur l'hypothèse que ces experts que l'on voit circuler dans les différentes parties des empires étaient porteurs d'un message de pratique de la conservation qui amenait à une certaine uniformisation des pratiques et des réalisations. Or, lorsque j'ai suivi Ritchie du Kenya à la Malaisie, ce qui est apparu assez clairement, c'est qu'il n'a pas pu reproduire en Malaisie ce qu'il avait fait au Kenya, tout simplement parce qu'il a été obligé de négocier avec les autorités coloniales locales et avec les populations locales. Et donc, il a fallu réinventer un autre modèle de conservation, même si certaines choses ont quand même été prises, notamment ce que Ritchie avait mis en place au Kenya, qui était l'abattage préventif des animaux pour leur conservation. Ça, c'est quelque chose qui est retranscrit en Malaisie.
Alors justement, Guillaume Blanc, dans votre livre, vous explorez, vous le disiez, un 13 terrain de recherche de l'Afrique à l'Asie. Et le point commun, c'est qu'il y a une approche fantasmée de la nature sauvage. Ça, c'est un point très très fort. Et qui font des colonies, des laboratoires d'expérience. Et une contradiction permanente entre prédation et protection, ce qui aboutit à des propos... ce que vient de dire Mathieu Guérin, c'est-à-dire des protections en faisant des zones d'abattage. Là, on se dit, mais j'ai bien entendu.
Oui, alors c'est vraiment... Alors là, bon, on est des nains sur des épaules de géants. Hein. Il y a d'autres historiens qui l'ont montré bien avant nous, notamment Richard Grove, qui a montré qu'en fait, contrairement à l'idée selon laquelle le conservationnisme serait né aux États-Unis fin 19e siècle avec Yellowstone, non, qu'en fait, c'était né dans les îles dites du paradis. Donc, que ce soit les Seychelles, les Mascareignes, Maurice, Sainte-Hélène... où en fait, dès le 18e siècle, hein, 17e, 18e, en fait, c'est face aux destructions que des savants se sont dit « la nature est en train de disparaître, il faut qu'on la protège pour pouvoir mieux l'exploiter ». Eh bien, pour la conservation, là, c'est ce qu'on a pu remarquer tous. Et là, effectivement, ce qu'a dit Mathieu, normalement, a de quoi surprendre l'abattage préventif des éléphants. On a un autre exemple dans le livre, c'est Raph de Bonte, qui est un chercheur allemand, qui lui a suivi plusieurs conservationnistes britanniques, dont Julian Oxley, l'ancien premier président directeur de l'UNESCO. Ils vont carrément, dans les années 50, jusqu'à mettre en place un programme qui s'appelle... Alors, en anglais, ça fait vraiment « slaughter for conservation », du massacre pour la conservation. C'est-à-dire qu'ils ont une idée. Ils se disent, puisque les Africains dégradent la grande faune, les zèbres, les girafes, les éléphants, etc., donc ils partent du principe qu'ils la dégradent, ils se disent, bah, si on remplaçait dans leur alimentation le bétail par de la grande faune, là, ils la conserveraient, il y en aurait plus. Donc en gros, ils se mettent à l'idée à élever des éléphants pour les abattre, élever des zèbres pour les détruire, c'est-à-dire pour les donner à manger, etc. Bon, c'est un échec total, mais on avait une vision très rationnelle en se disant le but est d'avoir plus de faune. Eh bien, voilà, donc c'est ça, il y a une image.
Ça, c'était en Ouganda et au Kenya dans les années 50, 60.
En Ouganda, au Kenya, ouais, le parc du Tsavo, le parc de la reine Elisabeth. Et donc, c'est vraiment abattre pour protéger. Alors là, c'est vraiment le truc paradigmatique, mais tout le livre est de montrer, voilà, la conservation est une contradiction en tant que telle, puisque prédation et protection, non seulement vont ensemble, même elles n'existent pas l'une sans l'autre.
Grégory Kenneth, vous êtes d'accord avec cette thèse ?
Oui, avec peut-être, moi je déplacerai un petit peu dans le temps, puisque je suis 18e, en fait, hein, j'ai beaucoup moins de compétences que Guillaume et Mathieu sur ces périodes-là. Ce qui est intéressant, c'est que le terme de conservation au 18e siècle, il a un sens un peu différent, c'est conserver, gérer ce qui se transforme sans cesse. Et donc vous n'avez pas cette dichotomie, c'est-à-dire que c'est des formes d'exploitation, mais en quelque sorte à l'intérieur du système, c'est-à-dire qu'il y a une gestion forestière, une gestion des ressources. Tandis que là, c'est une exploitation en quelque sorte de l'extérieur. Des gens qui viennent de l'extérieur dans les parcs pour la mise en tourisme, pour contempler, pour chasser. Et bien évidemment, c'est tout à fait différent quand vous pensez à la conservation comme quelque chose qui se modifie sans cesse, qui est la processualité de la nature. C'est ce qu'on découvre au XVIIIe siècle avec la découverte de la respiration des plantes, par exemple, que la putréfaction est un phénomène à l'intérieur et pas une atteinte de l'extérieur, et qu'on pense les êtres humains à l'intérieur de ces processus. Évidemment, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, ce qui veut dire que la grande question, c'est quels sont les schémas temporels qui sont mobilisés dans ces politiques. Et ça, on l'interroge très rarement.
En tout cas, gouverner la nature, c'est un formidable outil de pouvoir. On le voit bien dans ce livre. Mais est-ce que ça marche ? Restez avec nous, nous poserons la question à nos invités dans un instant. Mais tout d'abord, place au nerd. God bless us all.
With the world on your shoulders, what can you see? just clear your mind and you'll feel like me, yeah.
Les nerds, God bless us all, dans C'est pas du vent sur RFI.
RFI.
Le gris du métal, le jaune de l'or, le suintant du pétrole, le dru de l'asphalte et du béton. Ces choses-là qu'ils appellent richesse et qu'ils accumulent. La peur de ne pas en avoir assez. Au point de spolier tout ce qu'ils croisent sur cette planète, au point de creuser comme des forcenés le ventre de la terre, de suffoquer la terre, de sucer son sang, de ne pas lui laisser le temps de respirer, de se régénérer et d'offrir à tous les fruits de ses entrailles. C'est étrange.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Nous parlons de l'histoire des stratégies de protection du vivant aujourd'hui à l'occasion de la 15e conférence des Nations Unies sur la diversité biologique qui réunit les représentants de 196 pays à Montréal depuis mercredi et jusqu'au 19 décembre. Nos trois invités sont historiens, ils ont publié « Protéger et détruire, gouverner la nature sous les tropiques » aux éditions du CNRS. Guillaume Blanc, les chiffres que je donnais en début d'émission le prouvent, vous le démontrez aussi dans votre livre, la conservation du vivant, pour l'instant, ça ne marche pas.
Oui, les chiffres le prouvent. Je ne sais pas comment trop réagir comme ça. Ça ne marche pas et c'est vrai que nous, dans notre livre, on aurait tous aimé montrer que ça marchait. puisqu'à la base, d'ailleurs, on a quand même plutôt tous une conviction écologique pour faire ça. Et en fait, selon nous, en fait, ce que montre l'histoire, ça ne marche pas, disons, pour au moins deux raisons. Ça ne marche pas écologiquement parce que la mise en parc, la mise sous cloche, même si on a dépassé la mise sous cloche stricte, est toujours liée au tourisme. Et on peut s'amuser tristement à faire le coût, le calcul du coût écologique de la visite d'un parc. Puisque la plupart des touristes viennent des pays occidentaux pour venir en Afrique ou en Asie. Si vous prenez les bâtons de randonnée, c'est de la bauxite, aluminium, donc bauxite. La polaire, résidu de pétrole. Le Gore-Tex, du téflon. Le smartphone, du néodyme et du tantal. Et le billet d'avion, 0,5 tonnes de CO2. C'est pas du pessimisme que de dire aller visiter un parc, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont protégés là. Et puis, socialement, c'est beaucoup de détresse en fait, sociale qui sont créées, soit de l'appauvrissement autour des zones, soit de la coercition, de la criminalisation permanente, et puis des conflits fondamentaux entre en fait, ceux qui vivent dans les aires protégées et ceux qui vivent autour. On a une collègue, Mera Oumen, dans le livre, qui l'explique en Inde à quel point il y a des conflits mais d'une violence inouïe avec une tigresse qui va en fait avoir tué, en 2016, qui va avoir tué 13-14 personnes près du Yavatmal. Donc les bergers, les agriculteurs qui veulent abattre cette tigresse. Et par contre, des partis animalistes en ville qui, eux, vont jusqu'à réclamer d'abattre les bergers et les agriculteurs. Donc ça crée de la violence partout parce que c'est pensé de l'extérieur, mais malheureusement sans véritablement ceux qui habitent cette nature.
Oui, ça fait penser un peu à l'histoire du loup aussi en France.
Oui,
Grégory Kenneth, vous avez beaucoup travaillé sur les Seychelles. C'est vrai que cette histoire du tourisme, est-ce que ça se fait... Enfin, l'argument souvent, c'est de dire que le tourisme, bon, si on sanctuarise des espaces, déjà, ça protège cette biodiversité. Et en plus, ça crée une croissance économique pour les populations locales. Donc finalement, tout le monde devrait s'y retrouver.
Ouais, on pourrait écrire un volume suivant, hein, contempler et détruire, après protéger et détruire. Et effectivement, autant dans la première partie du livre, la question c'est celle de la chasse. Après, c'est une exploitation plus intensive des ressources. Et aujourd'hui, la grande question, c'est entre autres, l'exploitation des ressources c'est évidemment centrale, mais c'est cette question du tourisme. Et ce qui m'a beaucoup étonné dans le cas séchellois, c'est que je pensais que le tourisme arrivait après les indépendances, quand il s'agissait d'inventer des voies de développement. Or, il se trouve que les Anglais mettent ça, c'est dans les archives du Foreign Office, mettent ça avant, dans les années qui précèdent l'indépendance, en disant, voilà, on arrêtera de financer la colonie, mais en échange, on va construire l'aéroport avant l'indépendance. Et ils disent, ces pays-là n'ont aucun modèle de développement possible, ne produisent aucune richesse. Et donc la seule solution pour eux, c'est de devenir des sortes de zones touristiques pour l'Occident. Et donc c'est un projet colonial. Et évidemment, c'est très troublant pour nous. Il faut remarquer que le tourisme, on est revenu au niveau, même, on n'est même pas revenu au niveau d'avant le Covid, on est revenu à plus si on regarde la fréquentation des avions. Alors qu'on a dit qu'on avait compris, qu'on allait changer de modèle. Et ça, évidemment, on a beaucoup de mal à l'interroger. Et c'est soutenu par des élites sur place. Ça produit des inégalités. Et donc la question devient pas simplement forcément est-ce qu'il faut conserver ou pas, comme s'il fallait faire tomber tout cela, mais comment on met ensemble biodiversité et sociodiversité, pour reprendre les mots de Charles Stepanov, appliqués à son analyse de la Beauce aujourd'hui.
Oui, mais en même temps, si vous enlevez le tourisme aux Seychelles, vous plombez l'économie.
La question, c'est des modèles... On n'a toujours pas résolu la question des contradictions entre écologie et développement. C'est-à-dire, est-ce que le développement consiste à emprunter un mode de vie, un modèle qui est celui-là même qu'on essaye de critiquer, comme si c'était la seule voie possible, ou est-ce qu'il s'agit d'inventer d'autres choses? Le président René, qui fait le coup d'État et qui crée les Seychelles indépendantes, défendait une forme de socialisme seychellois, de socialisme créole. Il y avait ce très beau slogan du parti indépendantiste seychellois, hein, qui disait « Le tourisme n'est pas notre pain, il n'est que le beurre sur notre pain ».
C'est une belle...
Et donc, la raison, c'est à qui appartient, qui a le beurre et qui a le pain. C'est la question de ces pays-là.
Mathieu Guérin, sur vos terrains de jeu en Asie du Sud-Est, ça se décline comment ?
Alors, les deux pays sur lesquels moi je travaille, qui sont la Malaisie et le Cambodge, la mise en place de politiques touristiques, de développement du tourisme en parallèle des politiques de conservation, en fait, n'a jamais eu la même importance qu'elle a pu avoir aux Seychelles, en Afrique du Sud, ou au Kenya, ou en Tanzanie. C'est resté très largement anecdotique. Le Taman Negara, le parc national en Malaisie, auquel par exemple Ritchie avait participé, qui date des années 30, mais qui est réellement mis en place et ouvert aux touristes uniquement dans les années 50-60. Encore aujourd'hui, alors accueille des touristes étrangers, mais pas... Alors avant le Covid, on était à environ à 60 000 personnes par an, ce qui est à la fois pas ridicule, mais pas non plus gigantesque, et en tout cas pas suffisant pour avoir un impact économique important. Au Cambodge, qui est un pays où le tourisme joue un rôle important, les parcs qui ont été créés à la fin de la guerre en 1993 n'ont jamais eu un quelconque impact, d'abord sur le développement du tourisme. C'est-à-dire que les touristes au Cambodge ne vont pas voir les animaux, ne vont pas voir les paysages qui sont pourtant magnifiques, hein, des zones un peu reculées du pays. Mais surtout, ça n'a eu aucune conséquence positive pour la conservation de la faune. C'est-à-dire que la faune s'est totalement effondrée au Cambodge depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Quand bien même on a créé des parcs, des réserves, il y a une promotion auprès des touristes, et là l'échec a été complet. Les touristes sont pas venus, et en même temps la faune a disparu. Le tigre a totalement disparu du Cambodge, les populations d'éléphants se sont effondrées. Et la plupart des ongulés, on a un très très fort recul des populations. Là, on a un exemple d'échec très fort des politiques de conservation qu'on a voulu lier au tourisme. Et là, ça n'a absolument pas marché.
Alors, la seule conservation qui marche, hein, si j'ai bien lu votre livre attentivement, est celle qui implique les communautés locales, voire qui part d'elles. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-Christophe Bokika. Il préside l'ONG Mboumontour en République démocratique du Congo, qui œuvre pour la conservation des bonobos dans le territoire de Bolobo, dans la province de Maïndombé. C'est à 300 km au nord de Kinshasa.
Nous avons été alertés par une information préoccupante, le braconnage des bonobos. Le bonobo, dans notre zone, est considéré comme un humain. La légende dit qu'il habitait avec les hommes, mais parce qu'il n'arrivait pas à honorer sa dette, c'est là qu'il a préféré se réfugier dans la forêt, pour ne pas devenir l'esclave de son créancier. Et depuis lors, nous, quand on grandissait, on nous disait toujours, il y a un cousin en forêt, il ne faut pas le considérer comme un gibier, on le considérait comme tel. À tel point que les gens sont tolérants à l'égard des bonobos, même les ravages qu'ils causent aux plantations. Mais dans la zone, il y a les sociétés d'élevage et d'exploitation forestière, qui, au départ, utilisaient la main-d'œuvre locale. Mais à la suite de la modicité du salaire, la main-d'œuvre locale s'est désengagée. C'est alors que ces sociétés ont fait recours aux gens du nord et du sud de notre zone. Ceux qui sont venus n'ont pas nécessairement le même tabou traditionnel, n'ont pas la même culture que nous. Ils ont commencé à abattre les bonobos. Mais les jeunes gens le faisaient en cachette parce qu'ils savent que c'est interdit par la coutume. Mais lorsque l'un d'eux a vendu la mèche, nous avons réuni les chefs coutumiers pour leur dire « Est-ce que vous savez ce qui se passe dans vos forêts ?» Voilà, il y a ça, 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 ça. Mais ensemble, on a construit un discours, on a dit « Il va falloir qu'on fasse la sensibilisation. »
Alors aujourd'hui, vous avez 7 zones de conservation. Comment est-ce que ça se passe avec les communautés locales? Parce qu'il a fallu vraiment les former, les sensibiliser.
Oui, il y a 7 zones dont 6 sont déjà reconnues. Et nous sommes là en train de former les communautés locales pour la gestion de tous ces organes-là. Et ça semble marcher.
Et donc aujourd'hui, il y a à peu près une 50aine de personnes qui travaillent pour votre ONG.
Oui, et il y a également des gens qui bénéficient du métayage du petit bétail, de la volaille et même des lapins, ainsi de suite. Donc, ce sont également des bénéficiaires. Et en plus de cela, nous sommes en train de réhabiliter quelques infrastructures avec les moyens de bord. Et la dernière en date, c'est une maternité que nous sommes en train de construire.
Et vous avez aussi développé des écoles et puis des forêts nourricières. Alors, expliquez-nous ce concept.
La forêt, chez nous, est considérée comme une mère nourricière. Et même dans des forêts de conservation, nous, on permet aux gens de faire des prélèvements spécifiques, c'est-à-dire des prélèvements de champignons, de chenilles, mais en étroite harmonie avec les équipes de conservation, avec nos pisteurs qui sont sur le terrain.
Vous, votre bâton de pèlerin, j'ai envie de dire, c'est que la conservation n'est pas forcément une contrainte.
Voilà. Il ne faut pas contraindre les gens à faire quelque chose. Parce que regardez, madame, ce qui se passe en amont de la création de nos parcs. Ce sont des initiatives conçues soit par l'État, soit par les organismes internationaux dans un bureau climatisé de Kinshasa et on les impose aux communautés locales. On ne les consulte pas. On leur dit, nous avons découvert une importante diversité biologique et nous devons les protéger, nous devons protéger cette diversité biologique et vous demander de déguerpir. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent quitter. Et effectivement, ils ont quitté leur village, ils ont quitté leur lieu, ils ont quitté... Donc, on leur avait même promis des indemnités, des indemnisations qui ne sont pas venues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que les populations locales ne trouvent pas leur compte, ils reviennent à leur endroit habituel pour organiser le braconnage. Mais si l'initiative était déjà comprise en amont par les populations locales, on n'aurait pas assisté à ce genre de comportement. Je ne dis pas que notre initiative est parfaite, mais je crois que c'est la meilleure approche.
Jean-Christophe Bokika, qui préside l'ONG Un bout mon tour, merci beaucoup. Guillaume Blanc, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ?
Non, mais je crois que ça résume tout à fait et le problème quand il est global et la solution quand elle est véritablement locale, mais au-delà des discours en fait. C'est-à-dire que toute la conservation est communautaire aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas une institution internationale, de l'UICN à l'UNESCO à WCS, qui ne dit pas faire de la conservation communautaire. Mais c'est vrai que là, quand on se pose la question, quand pour des zones protégées, si on se demande quel monde est protégé, par qui ? Pour qui ? Le monde des parcs que ce monsieur décrit, donc les grands parcs avec les institutions internationales, si je caricature un peu, on pourrait dire que c'est quel monde est protégé ? Une image fantasmée d'une Afrique vierge, verte, sauvage. Par qui ? Des experts étrangers. Pour qui ? Des touristes étrangers. Alors que là, une zone comme celle-ci, qui n'est pas dédiée au tourisme, Quel monde est protégé ? Bah, le leur. Par qui ? Par eux. Pour qui ? Pour eux. Alors, bien entendu, il y a du pouvoir aussi chez eux. Dans une communauté comme ça, on peut mettre notre main à couper que certains vont tirer leur épingle du jeu aussi pour avoir du pouvoir sur la communauté. Tous les êtres humains partagent cette envie d'avoir du pouvoir, où qu'ils soient, hein, dans les arènes de l'UNESCO ou à 300 km au nord de Kinshasa. Mais en termes de conservation, on n'a pas de mise sous cloche. On n'a pas de consommation de la nature, puisque ce n'est pas dédié au tourisme. Donc, on a davantage une conservation par et pour ceux qui vivent de ce milieu, on va dire, socio-naturel, comme disait Grégory, sur la socio-diversité. Donc ça, ça donne plutôt espoir, contrairement, j'allais dire, à la COP15.
Il y a d'autres initiatives, comme par exemple le règlement européen visant à lutter contre la déforestation importée qui vient d'être adoptée. Nous en parlons avec nos invités dans un instant, mais pour l'instant, on se détend avec Antibalas, Tchétchékolé. Dima yo madeo, tu me adima mayo, dima yo amadeo, tu me adima mayo yo, dima yo madeo, umba umba, de de de. Tchétchékolé du groupe américain Antibalas dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons de l'histoire des stratégies de protection du vivant aujourd'hui à l'occasion de la 15e conférence des Nations Unies sur la diversité biologique qui suscite différentes attentes. Hein, Guillaume Blanc, tout le monde n'y croit pas, vous le disiez avant cette pause musicale. Mais nos trois invités sont historiens, ils ont coordonné, protégé et détruire, gouverner la nature sous les tropiques, publié aux éditions du CNRS. Mettre la nature sous cloche n'est pas la meilleure solution, nous l'avons vu, surtout si cela se fait au détriment des populations locales. Il y a d'autres stratégies à explorer pour enrayer la disparition du vivant et c'est le principe du règlement visant à lutter contre la déforestation importée adopté cette semaine par l'Union européenne. L'Union européenne qui est responsable de 16% de la déforestation mondiale, notamment à travers sa consommation de produits comme le soja ou le cacao. Bonjour Marie Toussaint.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes eurodéputée écologiste, alors c'est une victoire quand même l'adoption de ce règlement. Vous vous battez pour depuis longtemps. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Oui, alors bon, d'abord c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et puis avec ces trois historiens dont le travail est, je pense, extrêmement important. L'idée de ce règlement, c'est de dire quoi ? C'est de dire que l'Union européenne est l'un des principaux moteurs de la déforestation partout autour de la planète. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va au supermarché, quand on fait ses courses, quand on achète du bœuf, effectivement du soja, quand on achète des voitures également dans lesquelles il y a du cuir, eh bien nous contribuons à la déforestation. Et dans la réalité, la part de l'Union européenne dans la déforestation dans le monde ne cesse de s'accroître. Elle a atteint 16% l'année dernière dans la déforestation mondiale. Et il faut bien que nous protégions nos forêts. Et donc, pour ce faire, l'Union européenne vient donc d'adopter, et c'est une vraie victoire, un texte qui nous dit que plus jamais n'arriveront sur le marché européen les produits qui sont issus de déforestation importée. Donc très concrètement, ce qu'on va faire, c'est quoi ? C'est de demander aux entreprises de sourcer, de faire toute la transparence sur là d'où viennent leurs produits. Et lorsqu'il y aura un soupçon, une inquiétude sur le fait que le cacao, le café, l'huile de palme, le soja, le bois ou encore le papier, ou le caoutchouc et provoquer de la déforestation, alors il n'y aura pas de mise sur le marché de ces différents produits.
Mais ça veut dire définir ce qu'est une forêt, par exemple ?
Exactement. Alors ça effectivement pas été un sujet très facile. Il y a une définition des forêts qui est donnée par la FAO, l'Organisation mondiale, qui est la base du travail de l'Union européenne. Sauf que la définition de la FAO ne tient pas compte de l'ensemble de ce qu'on peut appeler les terres boisées ou les autres écosystèmes, c'est-à-dire que les savanes ou les mangroves ne sont pas concernées, alors même que ce sont des écosystèmes très précieux pour la biodiversité, comme d'ailleurs pour l'absorption du CO2. Le Parlement a beaucoup poussé pour essayer que ces autres terres puissent être intégrées au texte. Il y a eu un refus très net de la part des États membres. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est à faire en sorte que l'année prochaine déjà pour les autres terres boisées, donc en particulier par exemple le Cerrado, que vos auditeurs, vos auditrices connaissent certainement un petit peu, les autres terres boisées, si on ajoutait cette dimension-là, ça couvrirait l'ensemble du Cerrado. Et puis, donc ça l'année prochaine, et puis dans 2 ans, les autres écosystèmes, donc les mangroves. Donc en fait, l'idée, c'est que pour l'instant, ça concerne un certain nombre de produits et un certain nombre d'espaces de forêt, mais que dès l'année prochaine, il y aura un retour sur ces règles pour qu'on puisse étendre progressivement à l'ensemble des terres qui ont besoin d'être protégées.
Donc tous les écosystèmes ne sont pas concernés et tous les acteurs économiques non plus pour l'instant.
Oui, non, mais ça c'est un autre sujet. Tous les acteurs économiques sont concernés. Ce qui manque, c'est les banques. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, les banques financent énormément d'activités, d'actions, de production qui viennent soutenir la déforestation. Entre 2016 et 2020, pour vous donner une idée, les banques et les institutions financières européennes auraient obtenu 400 millions d'euros de revenus sur le dos de la déforestation. Alors voilà, là aussi, un refus net des États membres. Par contre, le Parlement européen est déterminé à faire en sorte que les institutions financières aient cette responsabilité, elles aussi. Et donc, on aura à revenir sur le sujet d'ici 2 ans. Entre-temps, peut-être que nous aurons une réponse de la plainte qui a été portée par notre affaire à tous, Mighty Earth et d'autres associations, contre la BNP Paribas pour son action sur la déforestation. Donc tout ça va main dans la main, ce qui se passe dans l'institution et ce qui se passe en dehors.
Merci beaucoup Marie Toussaint pour toutes ces explications. Merci. Guillaume Blanc, on entend bien que c'est une autre façon de pratiquer la conservation, là, ce règlement. C'est une autre stratégie, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, bon, après je vais laisser quand même la parole à mes collègues, mais non, pour moi c'est pas une autre approche, c'est toujours la même en fait. C'est bien, honnêtement, je trouve ça bien, mais déjà, il faut quand même le dire, Marie Toussaint a insisté et a raison sur la nécessité qu'il n'y ait pas de violation de droits humains, etc. Mais il n'y a aucune violation de droits humains, jamais, puisque toutes les expulsions, les populations ont signé, puisque les institutions internationales demandent à des gouvernements autoritaires de déplacer des gens de manière volontaire. Mais tous les paysans signent, puisque de toutes les manières, ils n'ont pas le choix de signer leur accord, de donner leur accord à leur déplacement volontaire. Donc il n'y a pas d'exaction dans le droit, puisque les populations signent. En Éthiopie, il est inconcevable de dire non au gouvernement. Donc il n'y a pas d'exaction puisqu'ils partent,
entre guillemets, d'ailleurs, vous dites que votre livre est à la base de votre livre, il y a une histoire éthiopienne.
Alors, pour moi, oui. Et puis, avec Grégory Quenet, on a eu l'occasion d'y aller ensemble, de mener un produit, vous voyez, c'est l'Union européenne, un projet de recherche commun. Donc, là-dessus, et après, mais je vais passer la parole à Grégory et Mathieu sur les lois. Bon, Marie Toussaint l'a très bien dit. Qu'est-ce qui est une forêt? Qu'est-ce qui va? Mais elle l'a effleuré. Elle dit non, après, c'est ce qui manque, c'est les banques. Mais en fait, ce qui manque, c'est le vrai problème, c'est le capitalisme. Qu'on soit de gauche ou de droite, ce qui détruit, c'est le capitalisme et la consommation. Et heureusement qu'il y a les écologistes et les verts, hein. Mais le capitalisme continuera de nous détruire malgré cela.
Grégory Quenet.
Alors, peut-être une tonalité un peu différente. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'intervention quant à son Madame la députée, c'est de montrer à quel point des questions de recherche et des questions de politique sont intimement liées. Elle a posé des questions de recherche. Qu'est-ce qu'une forêt ? Qu'est-ce qu'une forêt quand on pense qu'elle est habitée ? Qu'il y a des êtres humains à l'intérieur. Et cela montre comment nos indicateurs sont obsolètes parce qu'ils mesurent simplement la valeur de la nature. Or là, il y a toute une histoire longue. C'est vrai que la protection de la nature est fondée sur des critères de valeur de la nature et qui, du coup, peuvent se jouer tout à fait au détriment, à la fois, encore une fois, de la biodiversité, de la sociodiversité. Il n'y a rien de plus parfait, en quelque sorte, qu'une forêt de monoculture d'eucalyptus. Mais s'il n'y a plus d'êtres humains à l'intérieur, comme cela concerne une grande partie du Portugal aujourd'hui, eh bien, quelle société est construite? Donc le fait de travailler, je trouve, entre chercheurs et politiques, sur, comme ça, refonder les indicateurs, ça me semble extrêmement, extrêmement intéressant. Et après, effectivement, les outils ne sont pas à jour. Les données ne sont pas à jour. Il faut des enquêtes, il faut inventer de nouveaux corpus qui permettent de mesurer cela. Une des raisons pour lesquelles les banques arrivent à passer si facilement à travers, c'est parce qu'elles construisent elles-mêmes les indicateurs. Et donc, je regrette, pour ma part, qu'il n'y ait pas plus de lien entre cette recherche en train de se faire, mais qui est une recherche qui est assez empirique, qui est sur le terrain, et puis des initiatives politiques comme cela. Et on est loin d'un grand mot d'ordre un petit peu facile. C'est pas pour ou contre la conservation, c'est pas pour ou contre la déforestation, c'est un lien extrêmement complexe.
Oui, c'est ce qu'on voit bien, la complexité dans votre livre. Mathieu Guérin, sur cette initiative européenne, est-ce que pour vous c'est une bonne solution? Comment est-ce que vous abordez ça avec votre regard d'historien?
Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la manière dont nous vivons, nos actions ici en Europe, peuvent entraîner des conséquences dans les zones tropicales, et en essayant d'agir ici avant d'agir là-bas. Parce que jusqu'à maintenant, enfin notamment à l'époque de la colonisation et dans les années qui ont suivi, on a fait porter le fardeau des modifications que nous imposions à l'Afrique ou à l'Asie du Sud ou à l'Asie du Sud-Est par des politiques que les Européens mettaient en place dans les pays africains, dans les pays d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on est directement responsable des atteintes fortes à l'environnement. Et c'est nous qui expliquons aux gens qui habitent ces zones ce qu'ils doivent faire pour pouvoir protéger l'environnement qui était en fait pas en danger avant que nous n'arrivions. Donc c'est dans la manière de présenter les choses, dans la manière de mettre en place les politiques, il y a quelque chose qui est fondamentalement injuste et inefficace dans la conservation. Là, visiblement, on a une politique qui vise essentiellement à nous interroger nous-mêmes sur nos propres pratiques et puis à voir quelles sont les conséquences de ces pratiques sur les pays des zones tropicales. En ce sens, ça me paraît plutôt intéressant.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Je le disais, votre livre est passionnant. Protéger et détruire, gouverner la nature sous les tropiques 20e et 21e siècle, c'est publié aux éditions du CNRS. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même planète, même heure.